En fait, l'attaque d'hier sur Kryvyi Rih est une autre attaque dans cette phase d'intensification de la guerre. Et encore une fois, on voit que ceux qui souffrent les conséquences de ces attaques sont des civils. Ce ne sont pas des installations militaires, ce sont des personnes, des individus qui sont en train d'aller au travail, les enfants à l'école, etc., de faire les courses, qui subitement sont victimes d'un missile par la Fédération de la Russie. C'est malheureusement pratiquement tous les jours en Ukraine. Cette semaine, c'était Kryvyi Rih. Toutes ces attaques qui ciblent l'infrastructure civile, qui tuent des civils, sont des violations de le droit international humanitaire. Là-dessus, on est très clair.
Avec les évacuations assistées par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et une infrastructure dévastée à Kharkiv, décrivez-nous, s'il vous plaît, la situation dans le nord-est de l'Ukraine.
Kharkiv subit plusieurs attaques par jour. Donc, la dernière fois que j'étais, il y a 2 semaines, il y a eu 2 attaques dans la journée. Donc, on est dans la ville, on ne sait pas d'où viendrait la prochaine missile. On ne connaît pas la cible. Ça peut être le bâtiment à côté, ça peut être le bâtiment dans lequel nous sommes. Nous tous, nous avons 100 de stades des Nations Unies là-bas, parmi la population de Kharkiv. Donc, la vie quotidienne est totalement bousculée. Cette attaque contre l'épicentre, qui est une grande marché, pendant que les familles étaient un samedi après-midi. Moi, j'étais le lendemain. C'était impressionnant, la destruction, la fumée et puis le fait qu'ils cherchaient toujours les corps. Donc c'est une pression et une tension constante sur cette population. Pour le moment, on voit que selon nos données, les gens ne quittent pas la ville. Vous savez, en août 2022, quand j'y étais pour la première fois à Kharkiv, la ville était pratiquement vide. Au fur et à mesure que la situation sécuritaire s'est améliorée, les gens sont revenus, des business ouverts, les enfants à l'école, les restaurants, les hôtels, etc. Et maintenant, les gens ne veulent plus quitter leur ville. Donc, ils restent, malgré les difficultés, malgré les sirènes, malgré les attaques, malgré le manque d'électricité, parce qu'il y a eu des attaques contre l'infrastructure énergétique, les gens sont là. Et donc les Nations Unies et la communauté humanitaire restent à leur côté.
Comment l'ONU est-elle encore les Ukrainiens sur le terrain?
On est très présent à l'ONU, on a plus de 3000 staffs, on est très concentré à Kharkiv, Dnipro, Odessa, Mykolaiv, avec une présence régulière dans les zones très difficiles, Kherson et Zaporizhia. C'est l'aide humanitaire, donc pour ceux qui ont été déplacés depuis le début de l'intensification de la guerre en février 2022, pour ceux qui sont évacués il y a 2 semaines de Vovchansk à Kharkiv. Et donc l'aide est là, l'aide immédiate, où dormir, quoi manger, comment je vais acheter des choses quand ma maison a été détruite. Donc ça, tout ça c'est en place. C'est en place non seulement à travers les Nations Unies, mais il y a une très forte communauté d'ONG nationale en Ukraine qui vraiment font un travail absolument formidable. Nous travaillons ensemble, côte à côte, pour recevoir les personnes déplacées, pour s'assurer non seulement qu'il y a des biens qui sont donnés, mais aussi des services. Le traumatisme à cause de cette guerre est très, très important. Et donc, ce service, cet appui au niveau psychosocial est très important. Et ça aussi, c'est donné par les Nations Unies, mais aussi par les ONG nationales et bien sûr les autorités locales.
Le conflit en Ukraine ne fait plus la une des journaux comme avant. Pourriez-vous nous expliquer à quel point la situation est difficile maintenant et à quel point est-il crucial d'établir une paix durable aujourd'hui?
Vous savez, au début, en février 2022, il y a eu des millions de personnes qui ont quitté le foyer. Ceux qui ont resté dans le pays déplacés, ceux qui ont traversé les frontières. Mais ce que nous vivons actuellement est une nouvelle vague de déplacement dans le pays à cause de ces attaques à Kharkiv. Donc, la situation humanitaire n'est pas stable. Aujourd'hui, il y a une attaque et on doit répondre à ceux qui viennent aujourd'hui de perdre leur maison. On doit continuer à soutenir ceux qui ont perdu leur maison il y a 2 ans. On doit trouver avec les autorités des solutions pour que les enfants puissent aller à l'école. J'ai parlé tantôt des écoles dans les métros à Kharkiv qui à la fois sont un signal que les Ukrainiens sont déterminés de protéger leurs enfants. En même temps, c'est pas normal qu'un enfant doit étudier sur terre. Donc nous travaillons sur le média, c'est pour ça que je suis ici. J'étais à Berlin pour la conférence sur le recovery. Tout ce qui est déminage, tout ce qui est reconstruction, planification dans les communautés pour qu'ils puissent reconstruire, nous contribuons. Il y a une société civile très active en Ukraine avec laquelle nous travaillons étroitement, donc il y a un vrai partenariat. Mais c'est une situation où ce n'est pas suffisant de répondre uniquement à la situation humanitaire, mais aussi pour ceux qui peuvent, de les appuyer pour qu'ils puissent retrouver leur vie quotidienne, leur vie normale. Je considère ça comme absolument essentiel. Ça représente l'espoir de savoir qu'ils peuvent avoir un jour une paix qui revient en Ukraine. Et je peux citer le secrétaire général. Cette guerre est une violation de la Charte des Nations Unies et nous souhaitons une paix, a just peace for the people of Ukraine.